Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour mon émission Zone de Contact. Au programme aujourd'hui, l'Iran souhaite prendre part à la création d'un monde multipolaire via une adhésion aux BRICS, un ancien Premier ministre français qui menace de vendre des rillettes sur la Place Rouge, Saint-Pétersbourg qui souhaite développer la coopération avec l'Afrique et le gouvernement malien de la transition qui a annoncé la date de tenue du référendum constitutionnel. L'Afrique du Sud envisage de créer une cour de justice continentale. Une analyste française, professeure de droit, analysera à notre micro cette initiative. Le sort de l'accord céréalier reste toujours en suspens. Un politologue russe évalue les chances de sa prolongation. La Russie a été mise à l'honneur au Maroc lors du Salon international de l'agriculture. Le représentant commercial de la Russie à Rabat commentera l'intérêt des pays africains dans le domaine agroalimentaire et tracera des pistes pour élargir la coopération russo-africaine dans ce secteur. La journée du patrimoine mondial africain, c'est le 5 mai. Une experte malienne en diplomatie culturelle abordera l'épineuse question de la restitution aux Africains du patrimoine culturel et des archives pillées par les anciennes puissances coloniales occidentales. La création d'un monde multipolaire passe par une adhésion aux BRICS pour l'Iran. Le président de la République islamique, Ebrahim Raisi, a déclaré que l'adhésion de son pays à l'organisation permettra de remédier aux problèmes posés par l'unipolarité de l'ordre mondial qui permet aux États-Unis et à trois ou quatre puissances de se considérer comme les maîtres du monde. Pour rappel, l'Iran a déposé sa demande pour intégrer le groupe économique composé de la Russie, du Brésil, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud en juin 2022. Téhéran a déjà fait d'autres pas vers le monde multipolaire. En novembre 2022, l'Iran a intégré l'Organisation de coopération de Shanghai malgré des tentatives américaines d'empêcher sa participation. Cette institution a pour but de renforcer la coopération entre les États asiatiques et d'œuvrer à la paix dans la région. 9 États en font partie, dont la Russie. En outre, l'Iran a prôné en faveur de l'abandon du dollar en faveur des monnaies locales dans ses échanges avec les pays africains. Début mars, le président de la République islamique, Ebrahim Raisi, avait annoncé vouloir élargir ses liens économiques avec l'Afrique. Cela pourrait notamment passer par la création d'une banque commune. Des rillettes bientôt en vente sur la Place Rouge ? L'ex-premier ministre français François Fillon a estimé devant la commission de l'Assemblée nationale française sur les ingérences étrangères qu'il était désormais libre d'aller vendre des rillettes sur la Place Rouge s'il le désirait. Pour M. Fillon, c'est son retrait de la vie politique qui lui permet d'être libre dans ses choix. La commission lui reprochait ses liens présumés avec la Russie. Il a précisé qu'il avait assisté à un conseil d'administration avec la société russe Zarubizhneft et à une autre avec l'entreprise Sibour avant de démissionner suite au conflit en Ukraine. François Fillon a ajouté qu'il n'avait touché aucun centime pour ses passages éclairs ni perçu aucun revenu de source russe durant sa période à la tête du gouvernement. L'ex-premier ministre français a répliqué en renvoyant la commission à ses chères études. Il a souligné que la principale ingérence qu'il avait constatée durant son mandat était américaine. Il a indiqué qu'il a été espionné pendant plusieurs années par les services de renseignement des États-Unis, notamment par l'Agence nationale de sécurité. Auparavant, c'est l'ex-ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, qui avait fustigé l'ingérence américaine dans les affaires françaises devant la même commission. Il a notamment critiqué la réglementation américaine sur le trafic d'armes au niveau international, qui permet aux États-Unis de mettre leur nez dans les exportations françaises et même de bloquer certaines ventes si les produits exportés contiennent des produits américains. C'est par ce procédé que Washington avait bloqué la vente des avions Rafale à l'Égypte en 2018. La ville russe de Saint-Pétersbourg veut développer sa coopération avec les pays africains. Son gouverneur, Alexandre Beglov, a assuré que l'ancienne capitale de la Russie souhaitait faire davantage d'efforts en ce sens. Pour cela, il a mis en avant l'expertise de la ville qu'on appelle la Venise du Nord dans les domaines importants pour beaucoup de pays africains. Il s'agit de la construction d'installations de traitement de l'eau dans les systèmes d'évacuation des eaux usées et d'alimentation en eau potable. En outre, M. Beglov a rappelé que Saint-Pétersbourg accueille chaque année beaucoup de jeunes étudiants africains. Cette année, ils sont 2580 selon les chiffres avancés par le gouverneur. Pour rappel, Saint-Pétersbourg accueillera cette année le deuxième sommet Russie-Afrique du 26 au 29 juillet. La première édition de cette rencontre s'est tenue fin octobre 2019 à Sotchi, réunissant des représentants officiels de 54 pays africains. Ils ont signé un total de 92 accords, contrats et mémorandums. Le gouvernement malien a annoncé la date de la tenue du référendum constitutionnel. Selon Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, le collège électoral sera convoqué le dimanche 18 juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires de la République du Mali, à l'effet de se prononcer sur le projet de constitution. Les militaires voteront par anticipation le 11 juin. L'ouverture de la campagne électorale est prévue pour le 2 juin 2023. Pour rappel, ce vote devait avoir initialement lieu le 19 mars 2023, mais quelques jours avant sa tenue, les autorités ont annoncé son report. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous souhaite la bienvenue. Vladimir Poutine est également le bienvenu en Afrique du Sud pour le prochain sommet des BRICS prévu en août prochain. Toutefois, il y a un souci de taille. Le président russe fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale, ce qui complique considérablement sa venue, d'autant plus que l'Afrique du Sud a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Mais Pretoria ne baisse pas les bras pour autant. Le ministre sud-africain de la Justice, Ronald Lamola, songe à étendre l'immunité diplomatique au chef d'État en visite dans son pays. Précédemment, il a également été rapporté que l'Afrique du Sud était sur le point de se retirer de la CPI. Cette information a été rapidement démentie par la présidence sud-africaine, qui a toutefois précisé que Pretoria envisageait la création d'une cour pénale continentale. Pour décrypter cette démarche de l'Afrique du Sud, je vous présente Karine Bécher-Golovko, professeure de droit à l'Université d'État de Moscou et analyste politique.
Ronald Lamola, qui est le ministre de la Justice et des Services Correctionnels d'Afrique du Sud, a déclaré récemment qu'il envisageait d'étendre l'immunité diplomatique au chef d'État en visite dans son pays. Pourquoi, selon vous, Pretoria pourrait prendre cette décision ?
Il s'agit en fait d'un conflit classique en droit qui existe entre d'un côté le principe en droit coutumier international de l'immunité des chefs d'État, qui est un principe absolu, et petit à petit la remise en cause de ce principe avec l'apparition de juridictions internationales pénales du type de la Cour pénale internationale qui, elle, remet en cause cette immunité des chefs d'État. En exercice. On voit ici en fait un conflit idéologique entre d'un côté la souveraineté, donc les États souverains, donc la conception de l'étatisme, quand les chefs d'État sont protégés parce que justement on protège également la fonction, on protège l'État au-delà de la personne. Et d'un autre côté, la globalisation avec la remise en cause de la souveraineté des États qui donc banalise la fonction présidentielle. Et à partir du moment où cette fonction est banalisée, il n'y a aucune raison qu'il y ait une immunité particulière. Donc Pretoria ici, en fait, joue sur la carte traditionnelle, l'interprétation traditionnelle du droit, qui est celle de la reconnaissance de l'immunité des chefs d'État, ce qui est tout à fait logique, puisque le chef d'État bénéficie de cette immunité diplomatique, pas uniquement lorsqu'il est dans son pays, mais en principe, où qu'il soit, puisqu'il voyage en cette fonction.
Je vais justement revenir sur un événement important que va accueillir l'Afrique du Sud cette année. En août prochain, on aura le sommet des BRICS. Et la présence de Vladimir Poutine, qui est, je rappelle, visé par un mandat d'arrêt international, et donc sa présence est sur toutes les lèvres. Et selon toute vraisemblance, celle-ci devrait être virtuelle. Et la question que j'aimerais vous poser, en quoi la présence physique de Vladimir Poutine à ce sommet est-elle symbolique ?
Alors d'abord, il faut rappeler, pour comprendre l'importance en fait de sa présence virtuelle ou physique, c'est que le mandat d'arrêt international a été lancé par la Cour pénale internationale. Or, la Russie n'a pas ratifié le traité de Rome, donc elle ne reconnaît pas la compétence de la Cour pénale internationale, donc la Cour pénale internationale est incompétente pour prendre tout acte de procédure à l'égard des citoyens russes, notamment à l'égard du président de la Fédération de Russie. Nous sommes donc en fait pas du tout dans un rapport juridique, ici, mais dans un rapport de force politique. La présence virtuelle ou physique du président russe lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud souligne justement la manière dont la Russie va prendre au sérieux ou non cette menace, qui est une menace strictement politique. Si Vladimir Poutine participe de manière, on va dire, virtuelle, ça n'a rien de catastrophique non plus. Il participe dans de nombreux événements à distance. Ça a toujours existé, indépendamment et même avant ce mandat d'arrêt. L'intérêt pour lui de participer physiquement, si sa sécurité peut être garantie par l'Afrique du Sud, c'est que dans ce cas, il montre la limite et des possibilités réelles de la Cour pénale internationale et le fait que ces déplacements ne sont pas conditionnés par des menaces politiques venant de ces pays. Cela va dépendre en fait en grande partie des garanties de sécurité qui seront données par l'Afrique du Sud à ce sujet, puisque rappelons bien une chose, c'est que l'interpellation sur le sol d'un État ne peut être effectuée que par les forces de l'ordre de cet État. C'est-à-dire que la Cour pénale internationale, comme tout autre organe international, ne dispose d'aucune force de l'ordre pouvant agir partout dans le monde pour mettre en exercice les décisions qu'ils prennent. Donc, pour que leur menace politique soit réalisée, il faut que les pays acceptent de se mettre au service de ces organes. C'est pour ça que, à mon avis, cela, la présence physique ou virtuelle de Vladimir Poutine va dépendre très concrètement des garanties de sécurité qui lui seront apportées.
Je vais revenir sur le ministre Lamola qui avait également déclaré que son gouvernement était d'accord avec Amnesty International sur l'incohérence et les doubles standards de la Cour pénale internationale dans son travail. Il avait dénoncé l'enquête déjà close sur les présumées atrocités russes en Ukraine, tandis que sur le cas de la Palestine, celle-ci n'est toujours pas fermée. Et on peut également rappeler le cas de la Gambienne Fatou Bensouda, qui, en tant que procureur de la CPI, a tenté d'enquêter sur les méfaits des États-Unis en Afghanistan et d'Israël en Palestine. Mais elle s'est immédiatement retrouvée sous le coup de sanctions américaines et a dû quitter ses fonctions. Et donc, j'aimerais vous demander, comment analysez-vous ce deux poids deux mesures de la part de cette Cour ?
C'est là où on voit que ces juridictions internationales sont des juridictions politiques. Il ne peut pas être en être autrement. Je vais revenir juste sur certains détails de procédure pour bien comprendre les choses. 139 États ont signé le statut de Rome, mais tout le monde n'a pas ratifié, c'est-à-dire n'a pas reconnu finalement la compétence de la Cour pénale internationale. Et 31 pays n'ont pas ratifié. Dans ces 31 pays, l'on compte les États-Unis, Israël et la Russie. C'est-à-dire que on voit ici effectivement bien l'incohérence de la politique de la Cour pénale internationale, puisque si, à juste titre, la Cour pénale internationale a rejeté les poursuites contre Israël et contre les États-Unis, puisque ces pays n'ayant pas reconnu sa compétence, elle ne peut pas prendre d'acte de procédure contre les ressortissants de ces pays. Étrangement, elle continue à l'égard de la Russie, alors que la Russie se trouve juridiquement et processuellement exactement dans la même situation que Israël et les États-Unis. Et là, on voit effectivement ce côté de poids, de mesure est complètement politique. C'est-à-dire que la justice internationale, comme on l'a vu, la justice pénale internationale, comme on l'a vu depuis toujours, c'est ce qu'on appelle une justice des vainqueurs. Peu importe que ces vainqueurs soient des vainqueurs militaires. C'est-à-dire, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, le tribunal de Nuremberg. Ou que qu'il s'agisse de vainqueurs idéologiques, c'est-à-dire ces tenants du monde de la globalisation. D'où cette justice qui est mise en place, en fait, non pas pour au nom d'une certaine conception de l'équité pour réellement défendre des droits. Non, c'est une justice qui est mise en place pour défendre un ordre précis. Et en l'occurrence, ce sont des organes de gouvernance globale. Ces deux poids, deux mesures illustrent parfaitement cette nature profondément viciée de ces organes de justice internationale pénale.
Pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez faire un rappel pour dire quand, par qui et pourquoi la Cour pénale internationale a-t-elle été créée ?
Alors, la Cour pénale internationale est issue du traité de Rome de 1998. Donc déjà la date est intéressante puisque nous sommes après la chute de l'URSS, après la chute du monde bipolaire, à la fin des années 90, donc c'est-à-dire que le traité de Rome a été travaillé pendant les années 90, à l'époque de cette globalisation, je dirais presque frénétique, au moment où les États-Unis notamment, et cette vision du monde qu'ils portent, a littéralement envahi le monde. Il est entré en vigueur plus tard, en 2002, puisqu'il a fallu attendre que suffisamment de pays le ratifient pour qu'il puisse entrer en vigueur. Sa compétence est assez particulière, puisque au-delà des avis, la Cour pénale internationale a une compétence juridictionnelle qui est assez précise, puisque c'est une juridiction pénale, donc à la compétence précisée, qui au départ a été établie pour les crimes de grande envergure, donc de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et à partir de 2010, il y a eu un nouveau mouvement pour l'extension de sa compétence avec l'instauration d'un crime d'agression qui est une notion extrêmement politique et extrêmement vague puisque dans un conflit, il est quand même effectivement difficile de dire objectivement toujours qui est l'agresseur, qui est l'agressé puisque cela nécessite de placer un point de départ extrêmement précis. Si dans certains cas, effectivement, les choses sont évidentes, il y a au niveau du crime d'agression une grande marge d'interprétation politique. Et c'est pour ça qu'il a fallu 8 ans de négociations pour que finalement, en 2018, cette incrimination de crime d'agression devienne effective pour la Cour pénale internationale. Et l'on voit ici toute sa dimension politique, par exemple en ce qui concerne la Russie, puisque c'est notamment l'une des incriminations pour laquelle tout un travail est fait en place pour essayer de faire légitimer en quelque sorte les mesures adoptées contre la Russie en bloquant le début à février de l'année dernière, oubliant toutes les agressions depuis 2014 du Maïdan, la formation de l'armée ukrainienne par les forces de l'OTAN et toutes les agressions menées par l'armée ukrainienne contre son propre territoire. Donc, nous sommes ici réellement dans le cadre d'une institution qui a été créée à un moment propice, c'est-à-dire à un moment où justement nous avons vu ces vainqueurs idéologiques dont nous parlions avant, qui, actant entre guillemets leur victoire, ont instauré leur justice. Et l'on voit comment elle travaille aujourd'hui.
Je voudrais mettre en évidence un fait qui est assez curieux. Donc, on a dans la ville de La Haye une autre cour. La Cour internationale de justice, qui, elle, est placée sous l'égide de l'ONU. Et donc, si vous voulez, quel est l'intérêt d'avoir deux cours, d'autant plus que le traité de Rome statuant la création de la CPI n'a pas été ratifié par des États occidentaux, dont notamment les États-Unis ?
Alors, l'intérêt est justement, si l'on se reporte dans l'évolution. Les cours internationales sont intervenues en général après une grande crise. Après la Première Guerre mondiale, vous avez eu la mise en place d'une première Cour internationale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la mise en place de la Cour de justice internationale en 1945. Et là, nous sommes dans le cadre d'une justice entre les États, c'est-à-dire que ce sont des juridictions qui, au-delà de la question de l'interprétation des traités internationaux, règlent les conflits entre les États. Donc, nous sommes dans le cadre, si vous voulez, de rapports internationaux quand même plus ou moins encore classiques. Avec la mise en place de la Cour pénale internationale, l'on passe à un degré supérieur. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans le cadre d'une justice entre les États, mais l'on entre dans le cadre d'une justice à l'intérieur de l'État, puisque la Cour pénale internationale, elle, a compétence pour apprécier la responsabilité pénale des dirigeants, des personnalités, bref, des personnes physiques. Donc, c'est une justice intrusive qui rentre dans le domaine de la souveraineté de l'État, puisque l'exercice de la justice, rappelons-le, est un des éléments fondamentaux et fondateurs, d'ailleurs, de la souveraineté de l'État.
On va regarder dans l'histoire et on s'aperçoit que le premier condamné par la CPI était congolais. Il s'agissait de Thomas Lubanga. Et donc, depuis, la grande majorité des affaires traitées par la CPI concernent l'Afrique. C'est pourquoi beaucoup accusent l'organisation d'être partiale et presque raciste. Et donc, pourquoi les pays africains ont-ils décidé de donner à cette institution de tels pouvoirs? Ne peuvent-ils pas condamner leurs propres criminels?
En effet, la politique juridictionnelle, c'est-à-dire la manière dont une juridiction choisit ses affaires, donc la politique juridictionnelle de la Cour pénale internationale est pour le moins biaisée. Je ne suis pas sûre qu'il s'agisse réellement de racisme. En tout cas, cela souligne la faiblesse, la faible résistance des États africains par rapport à ces structures globales, en l'occurrence la Cour pénale internationale. Parce que les États africains ont accepté de ratifier cette Cour, ils se sont donc mis, je dirais, à portée de main des actions de cette juridiction. Il est plus facile pour la Cour pénale internationale d'agir contre les pays d'Afrique parce que politiquement, ce sont des pays qui sont malheureusement assez chroniquement instables et ce qui les affaiblit énormément sur la scène internationale. Et il est bien connu dans la vie comme dans la géopolitique, en général, on attaque les personnes ou les entités qui sont plus faibles et plus difficilement ceux qui sont forts. Donc, nous sommes ici, a priori, si vous voulez, effectivement, dans une logique biaisée. C'est une logique aussi, cette manière de conduire, d'orienter le contentieux de la Cour pénale internationale souligne aussi cette tendance de la globalisation à être un système néocolonial. C'est-à-dire que, comme partout, on revient et on garde cet adage classique selon lequel le souverain ne peut pas être jugé en sa cour, ce qui fait que ces pays anglo-saxons se sont mis hors de portée de la juridiction et certains pays occidentaux hors de la portée de juridiction de la Cour pénale internationale, se considérant comme les suzerains de ce système. Et les autres pays, il n'y a pas que l'Afrique, il y a aussi les pays d'Asie, certains pays européens, eux, se sont mis sous la coupe de cette juridiction. Donc, il me semble qu'ici, il y a une réflexion géostratégique à mener. Et effectivement, la question se pose, pourquoi avoir donné de tels pouvoirs? Il serait bon donc que les pays africains, pour cela, reconsidèrent les mécanismes de leur souveraineté nationale et sortent de cette juridiction qui, globalement, de toute manière, ne leur apportera strictement rien, puisque eux-mêmes, effectivement, doivent pouvoir, non seulement ils peuvent juger leurs propres criminels, mais ils le doivent. C'est la force de leur système politique et de leur système étatique qui en dépend. Si un peuple et un pays ne peut pas lui-même gérer et condamner les personnes qui portent un danger à la stabilité de ce système et à l'intégrité nationale et à la sécurité nationale, dans ce cas-là, ce système n'est pas viable. Donc c'est un devoir même pour eux de reprendre leur souveraineté en main et de régler en quelque sorte leurs affaires nationales au niveau national.
Je vais communiquer un autre fait intéressant. Donc, dans son communiqué, la présidence sud-africaine a annoncé qu'elle s'efforcera de revigorer le protocole de Malabo qui établirait une cour pénale continentale complétant la CPI en tant que juridiction de dernier ressort. Et je voudrais vous demander comment évaluez-vous cette idée et est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de ce protocole? Enfin, comment les relations entre ces cours seront-elles structurées? Et est-ce que la Cour africaine pourra-t-elle annuler la Cour pénale internationale?
Alors, il faut comprendre que c'est un processus, cette mise en place de cours africaines qui a débuté depuis un certain nombre d'années. Il y a eu tout d'abord, on peut souligner, le protocole de Ouagadougou de 1998 qui a mis en place la Cour africaine des droits de l'homme et le protocole de Maputo de 2002 qui a mis en place, qui devait mettre en place une Cour de justice de l'Union africaine. Le protocole de Malabo, lui, si je ne me trompe, il doit être de 2008, lui, en fait, vise à une fusion de ces deux juridictions au sein d'une seule cour et qui aurait deux sections. La première section reprendrait le contentieux entre les États comme de le faire issu en tout cas du protocole de Maputo, et la deuxième section qui réglerait la question des droits de l'homme comme le faisait le protocole de Ouagadougou 98 qui a mis en place la Cour africaine des droits de l'homme, un peu sur le modèle des juridictions régionales des droits de l'homme comme on a la Cour américaine ou comme on a la Cour européenne. Ça, c'est pour l'aspect, si vous voulez, théorique. En principe, c'est tout à fait possible, sauf que de toute manière, ça ne changera strictement rien par rapport à la Cour pénale internationale. Parce que si théoriquement et processuellement, la Cour pénale internationale, fonctionne sur le principe de subsidiarité, le problème est que elle estime elle-même les critères de sa compétence. Et notamment, elle écarte le principe de subsidiarité quand un État n'a pas la volonté ou la capacité de juger d'un crime. Or, c'est elle-même qui apprécie le degré de cette volonté ou le degré de cette capacité. C'est-à-dire que si ces juridictions ont été mises en place justement à cause des conflits avec de l'Afrique, avec la Cour pénale internationale et au recours assez excessif aussi de la compétence universelle dans les juridictions européennes contre l'Afrique, contre les ressortissants africains, nous sommes en fait, si vous voulez, dans une fausse porte de sortie. Puisque de toute manière, il n'y aura pas d'articulation entre ces deux juridictions, puisque a priori, la Cour pénale internationale ne va pas reconnaître cette juridiction comme étant son alter ego, et donc elle ne va pas se retirer au nom du principe de subsidiarité. La Cour africaine peut avoir lieu, mais elle n'est pas une Cour supérieure à la Cour pénale internationale, donc de toute façon, elle ne pourra pas annuler les décisions. Simplement, ces décisions ne seront pas mises en œuvre dans les pays qui ne reconnaissent pas la légitimité de la Cour pénale internationale. D'où, si vous voulez, le plus grand intérêt, ce n'est pas une urgence de mettre en place une énième Cour internationale qui va encore être un organe finalement peut-être régional, mais de toute façon globalisé, c'est-à-dire qui va vider d'une partie de sa souveraineté les États, mais plutôt de sortir de ces organes de gouvernance globale que sont notamment la CPI et de renforcer le fonctionnement de la justice au niveau national afin d'en renforcer la légitimité. Parce que tant qu'il n'y aura pas de justice efficace et légitime au niveau national, aucun problème ne sera réellement réglé. Si les pays africains arrivent à mettre en place des mécanismes de justice légitime au niveau national, ils n'ont aucunement besoin de cours supranationales.
Je vais vous poser une dernière question. Donc, on a Alexandre Bastrykine, qui est le président du comité d'enquête russe. Il a proposé une initiative visant à créer une cour internationale avec la participation de l'organisme de coopération de Shanghai et des pays de la communauté des États indépendants qui regroupe, je rappelle pour nos auditeurs, un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques. Et ce nouvel organe judiciaire devrait donc être un analogue et une alternative à la Cour pénale internationale. On a également Andrei Klimov, qui est le vice-président de la Commission des affaires internationales du Sénat russe, qui a précédemment déclaré qu'une telle structure pourrait être établie au sein des BRICS. Et donc, si vous voulez, quel est l'avenir des organes judiciaires internationaux en général? Et est-ce que la CPI cédera-t-elle la place à des structures régionales ou existera-t-il une cour internationale exempte de préjugés contemporains?
Aucune juridiction pénale internationale ne peut être exempte de préjugés contemporains. Il peut y avoir simplement différents types de préjugés. Et ces juridictions représenteront certains types de préjugés ou d'autres types de préjugés. Donc, la question, ce que j'ai dit par rapport à l'Afrique vaut autant pour la question des BRICS et de l'initiative russe, puisque fonctionnellement, c'est exactement le même problème. La question étant de savoir, est-ce qu'il est possible de mettre en place une justice pénale internationale, même régionale, qui soit réellement indépendante? Non. En tout cas, elle peut être politiquement indépendante. Elle ne sera jamais idéologiquement indépendante. Deuxième question, est-ce qu'il est possible de mettre en place une justice pénale internationale qui ne porte pas atteinte à la souveraineté des États? Non, puisque justement, dans ces cas-là, les États perdent une partie de leur souveraineté et le pouvoir de juger est un élément important qui est transféré à une juridiction supranationale. Dans cette juridiction supranationale, entrent des représentants de différents pays. Le rapport de force qui existe, politique qui existe entre les pays d'une manière générale, va se trouver représenté au sein de cet organe. Et cet organe va à nouveau devenir un instrument de gouvernance, certes peut-être régional, mais de toute façon supranational. Donc on reste dans le cadre d'une question de globalisation régionalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul centre, il y a aussi des sous-centres, mais fonctionnellement on reste toujours dans le mécanisme de la globalisation, qui est un mécanisme d'évidement des États de leurs compétences. Donc cela me semble être aussi une fausse bonne idée. Et dernière question, peut-on compenser le manque de légitimité des structurelles des systèmes judiciaires nationaux par l'établissement d'un idéal judiciaire international? Là aussi, malheureusement, la réponse est non. Tous les systèmes judiciaires nationaux ont un déficit de légitimité pour la simple et bonne raison qu'ils règlent des conflits. Donc vous avez toujours la moitié à peu près qui est insatisfait et la moitié qui à peu près est satisfait. Cela est normal, il ne peut pas en être autrement puisqu'il y a un conflit. Donc il y a une partie qui est gagnante et une partie qui est perdante devant le juge. À partir de là, il est important de travailler sur la qualité du rendu de la justice, sur la formation des juges, sur la qualité de la formation des juges et la qualité de la rédaction des jugements. Ça oui, ça c'est important. Cela va permettre de renforcer la légitimité nationale. Et le fonctionnement d'un État dépend de sa légitimité au niveau national. Si on n'arrive pas à créer une justice idéale au niveau national, et en soi c'est impossible, comment pourrait-on créer cette justice idéale au niveau international? En soi c'est un mythe. Dernier aspect, le fait même de compter sur un organe international pour renforcer une légitimité au niveau national montre ce déficit de légitimité et la faiblesse de l'État en tant que tel. Donc au contraire, ça ne va pas renforcer sa légitimité, ça va l'affaiblir. Donc ça va affaiblir l'État. C'est pour ça que je reste extrêmement dubitatif face à la nécessité de démultiplier ces organes de justice internationale. La Russie est sortie de la Cour pénale internationale et là, elle comprend à quel point finalement cette décision à l'époque a été vitale. La Russie vient de sortir enfin de la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de créer un nouveau problème qu'il faudra à terme derrière résoudre. Il y a de véritables problèmes aujourd'hui qui est nécessaire de résoudre, autant le faire. Si la Russie veut renforcer sa position, il est beaucoup plus important pour elle de conduire les autres États des BRICS, des États de ces coopérations, organisations de coopération de Shanghai, des États de la CEI, de sortir eux-mêmes de ces systèmes de juridiction pénale internationale, ce qui fera chuter automatiquement ces juridictions puisqu'elles ne seront plus représentatives. Et à partir de là, de créer, de mettre en place ce qui a toujours existé, ce qui existe toujours, des accords bilatéraux de coopération judiciaire.
C'était Karine Béchet-Golovko, professeure de droit à l'Université d'État de Moscou et analyste politique. Elle a commenté l'initiative de l'Afrique du Sud qui vise à accorder une immunité diplomatique aux chefs d'État en visite sur son territoire et sur la création d'une cour pénale africaine. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique. Moi, Anthony Lefebvre, présentateur de l'émission Zone de Contact, je vous salue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Les vice-ministres de la Défense de la Turquie, de l'Ukraine et de la Russie se rencontrent à Istanbul aujourd'hui le 5 mai. Plusieurs questions doivent être abordées au cours de la réunion, notamment l'accord céréalier. Pour rappel, cet accord, signé initialement en été 2022 par Moscou, Kiev et Ankara avec l'aide de l'ONU, expire le 18 mai. Il a permis la reprise des expéditions de blé ukrainien. Le deuxième volet de l'accord prévoyait également le déblocage des exportations russes d'engrais et de denrées alimentaires. Moscou a plusieurs reprises fait savoir qu'il n'avait pas vu de progrès tangible concernant la réalisation de ce deuxième volet. L'accord est dans une impasse à cause de l'attitude peu sérieuse de l'Occident, a avancé Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. L'une des pierres d'achoppement est la destination des céréales en provenance d'Ukraine, car la plupart de ces grains sont en réalité destinés aux pays occidentaux et non pas aux pays dans le besoin. C'est l'Europe qui a reçu la plus grosse part du gâteau, plus de 50%. Mais seulement 2,6% a été acheminé vers l'Afrique subsaharienne où se trouvent les pays les plus nécessiteux. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, l'a également souligné à l'issue d'une réunion des chefs des diplomaties de l'UE. Après l'ouverture des corridors dits de solidarité, les produits agricoles ukrainiens sont arrivés en Europe centrale et y sont restés. En pratique, ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu d'approvisionner l'Afrique en nourriture, ils ont détruit les producteurs d'Europe centrale, a-t-il martelé, cité par des médias hongrois. Selon le ministre, l'approvisionnement alimentaire comporte un grave risque pour la sécurité, car elle affecte le plus les États africains et du Moyen-Orient les plus vulnérables, et peut donc susciter des violences, entraîner une augmentation de la menace terroriste et déclencher ainsi une nouvelle vague d'immigration. Il ne fallait donc pas confier à l'UE le règlement de ce problème, a-t-il estimé. La Turquie, l'un des pays qui bénéficie le plus de l'accord, a déjà évoqué plusieurs initiatives pour le sauver. Par exemple, Ankara n'exclut pas la participation de ses banques aux transactions pour assurer la livraison des produits agricoles russes. Néanmoins, le sort de l'accord céréalier reste très incertain. Au micro de Spoutnik Afrique, le politologue russe Andrei Souzdaltsev, chercheur à l'école des hautes études en sciences économiques, a évalué sa prolongation. Monsieur Souzdaltsev, l'accord céréalier est valable jusqu'à la mi-mai et le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que les conditions russes n'étaient toujours pas remplies. Pourquoi une telle situation se dessine-t-elle ?
L'Occident ne respectera pas les conditions de la Russie car ce n'est pas du tout rentable pour lui. Vous savez, il n'y a pas de restrictions ni de sanctions officielles contre la fourniture de céréales et d'engrais russes. Il y a des sanctions contre l'infrastructure de ses approvisionnements. Il y a donc les revendications principales de la part de la Russie. Ces revendications concernent l'assurance des approvisionnements, la recherche de fret pour les navires, l'accès aux ports, toutes ces nuances. En général, nous avons 6 revendications de ce type, dont certaines se complètent mutuellement. Par exemple, connecter Russell Rose Bank à SWIFT, parce que c'est nécessaire pour effectuer des transactions. Et bien sûr, il y a aussi un problème avec le fameux pipeline d'ammoniac qui passe par Odessa. Toutes ces questions ont également été exposées dans l'accord céréalier. Ces affirmations ont été faites au niveau du ministère russe des Affaires étrangères. Mais rien n'est fait par l'Occident. La situation n'évolue pas et reste très tendue. Car, naturellement, la Turquie aimerait conserver l'accord. Elle a promis à 2 reprises de l'aider lors des prorogations de novembre et de mars. Mais elle n'a rien obtenu. L'ONU ne peut rien changer non plus. C'est là où reste le problème. La Russie a donc maintenant la possibilité d'arrêter l'accord. Celui-ci a été prolongé en vue des élections turques qui se tiendront le 14 mai. Naturellement, si Erdogan reste au pouvoir, on peut espérer que l'accord soit prolongé, bien qu'Erdogan n'ait encore rien obtenu.
Selon M. Peskov, les circonstances ne sont pas favorables à une extension de l'accord. Quelle est la probabilité que la Russie ne prolonge pas cet accord ? Qui sera perdant ?
Tout d'abord, les perdants seront les spéculateurs occidentaux qui ont exporté ces céréales bon marché et les ont vendues à des pays qui en avaient besoin. des spéculateurs en Italie, en Espagne et dans d'autres pays du Sud. En même temps, comme vous le savez, seuls 3% des pays qui souffrent de pénuries alimentaires ont reçu ces céréales directement. Le bénéficiaire direct de cet accord est la Turquie, qui était également heureuse d'acheter ces céréales bon marché et de charger son industrie de la meunerie. La farine turque alimente tout le Moyen-Orient. La Turquie se battra donc pour cet accord. Mais là encore, la position d'Erdogan est instable. Nous ne savons pas comment les événements se dérouleront lors des élections du 14 mai en Turquie. Les actions de la Russie prendront certainement en compte le résultat des élections turques, car Ankara est le partenaire de Moscou dans l'accord céréalier. Bien qu'en général cet accord soit coûteux pour la Russie, car il est clair que l'argent que l'Ukraine reçoit pour les céréales sert à payer les armes occidentales utilisées contre la Russie, c'est la première chose. Deuxièmement, et c'est un point très important, il y a une logique à l'opération spéciale. Selon cette logique, les ports de la mer Noire concernés par l'accord devraient rester intacts. En d'autres termes, la Russie ne mène pas d'opération militaire dans ces zones. En d'autres termes, cet accord est une carte blanche pour le travail des ports eux-mêmes et pour Odessa elle-même en tant que ville. En d'autres termes, il n'y a pas d'attaque là-bas. Et bien sûr, l'Ukraine n'est pas seulement intéressée par la vente de céréales, elle est également intéressée par l'argent qu'elle paie pour les armes. Cependant, avec l'accord actuel, Kiev est tranquille quant au sort de sa côte et de ses ports, principalement Odessa. En d'autres termes, il s'agit de concessions sérieuses de la part de la Russie. Mais jusqu'à présent, il est impossible de dire avec certitude que la Russie prolongera ou non l'accord. Il a déjà été prolongé 2 fois. Je vous rappelle qu'au début du mois de septembre de l'année dernière, lors du forum de Vladivostok, le président russe a déclaré que nous avions été trompés.
Le président de l'Union russe des céréales, Andrei Zloshevsky, avait déclaré précédemment que l'Ukraine pourrait épuiser son potentiel d'exportation de céréales dans un avenir proche. En outre, l'Union européenne envisage déjà de limiter les importations ferroviaires de denrées alimentaires en provenance d'Ukraine. Si l'Ukraine n'a pratiquement rien à exporter, le sens même de l'accord céréalier est perdu. Qu'en pensez-vous ?
L'Ukraine a exporté énormément de céréales en 2021. Mais il ne faut pas oublier que l'Ukraine n'exporte pas de blé en premier lieu. Le principal produit d'exportation de l'Ukraine est le maïs. C'est le maïs ukrainien qui a servi à nourrir les porcs en Espagne. Après le maïs, il y a le blé, l'orge en tant que grain fourrager et les graines de tournesol. Il y a aussi l'huile de tournesol, qui est également un très bon produit d'exportation. Mais cette année, les experts estiment que les exportations de céréales en provenance d'Ukraine vont chuter brutalement, de moitié. Cela est dû non seulement au combat qui se déroule dans les zones les plus fertiles, où les principales récoltes sont habituellement effectuées, mais il y a aussi un problème d'achat de céréales et de produits phytosanitaires. Et l'Ukraine n'a pas d'engrais. Le paiement des machines pose également problème. L'Ukraine a donc beaucoup de problèmes. Bien que l'agriculture céréalière ukrainienne soit puissante, il y a de très grandes exploitations, des fermes solides, de beaux équipements modernes et occidentaux. Elle est bien organisée. Néanmoins, les experts affirment que le volume des exportations diminuera de moitié. Au 22 juillet de l'année dernière, environ 25 millions de tonnes de céréales avaient été exportées d'Ukraine. C'est 2 fois moins qu'en 2021. On peut s'attendre à ce que les exportations de cette année ne dépassent pas la moitié de ce volume. En ce qui concerne les exportations vers l'Occident, le fait est qu'au cours de cette période hivernale, beaucoup de céréales ont été exportées vers les pays occidentaux. Et ce qui s'est passé correspond en gros à ce qui était prévu. Le potentiel de l'agriculture ukrainienne est énorme. Et, bien entendu, lorsque la question de l'association de l'Ukraine à l'Union européenne a été résolue, les Européens ont immédiatement accordé des quotas à Kiev. Même la Pologne a déclaré que si le secteur agricole ukrainien était autorisé à opérer sans restriction en Europe, l'agriculture polonaise pourrait être fermée et oubliée. En d'autres termes, l'Ukraine n'a pas sa place dans l'Europe agricole. Et maintenant, sous la pression de l'opinion publique, les exportations de produits agricoles de l'Ukraine vers les pays voisins sont restreintes. Bruxelles a décidé d'envoyer ses produits plus loin vers l'ouest. Mais où ? Vers l'Allemagne et la France ? Mais la France a ses propres céréales. En général, les Européens ont trop joué et ont ruiné leur propre agriculture au nom d'un agenda politique. Soutenir l'Ukraine.
C'était Andrei Souzdaltsev, politologue russe. Pour les auditeurs de Radio Sputnik Afrique, il a évalué les chances de la prolongation de l'accord céréalier dont les vice-ministres de la Défense de la Turquie, de l'Ukraine et de la Russie discutent aujourd'hui à Istanbul. Mesdames, messieurs, je vous confirme que vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous salue si vous venez de nous rejoindre. La 15e édition du Salon international de l'agriculture marocain se tient actuellement jusqu'au 7 mai dans la ville de Meknès. Et les entreprises russes ont fait le déplacement à cet événement. Parmi elles, on peut citer la holding agricole Miratorg, le producteur d'huile de tournesol GK Blago, ainsi que le développeur d'une intelligence artificielle pour le suivi en ligne des animaux en liberté, ES PASS LTD. La représentation commerciale russe au Maroc est également présente. L'accent a été mis sur la promotion d'événements majeurs internationaux qui seront organisés sur son territoire, dont notamment le prochain sommet Russie-Afrique qui se tiendra en juillet prochain à Saint-Pétersbourg. De plus, elle offre la possibilité aux visiteurs de s'informer sur les produits et les machines russes. Au micro de Spoutnik Afrique, Alexei Andreev, représentant commercial russe au royaume chérifien, a fait le point sur l'accueil que les Africains ont réservé aux produits russes, ainsi que sur les perspectives de développement de la coopération russo-africaine dans le secteur de l'agroalimentaire. Écoutons-le. La mission commerciale de la Russie au Maroc est présente à ce salon de l'agriculture avec son propre stand. Que peut offrir la Russie aux pays d'Afrique aujourd'hui ?
La Russie, depuis longtemps, a des liens étroits avec les États africains. Et je note tout de suite que de nombreux pays africains considèrent notre pays comme l'un des principaux partenaires dans des secteurs différents de l'économie, notamment dans le secteur agricole. Cette année, la représentation commerciale de Russie au Maroc a organisé une exposition des produits alimentaires russes pendant le salon SIAM 2023. Les produits comme huile de tournesol, de fromage, des produits du lait, de confiserie, produits gastronomiques, le miel et beaucoup d'autres. Parmi eux, il y a des produits russes inhabituels, par exemple des protéines des graines de tournesol. Je voudrais ajouter que traditionnellement, la participation aux foires comme SIAM est une très bonne opportunité pour des fabricants russes de trouver des consommateurs de ce produit au Maroc. Et je saisis cette occasion pour les inviter à coopérer avec notre mission lors des événements à venir. Toutes les informations sur les événements prévus sont affichées sur le site officiel. Elles peuvent aussi contacter avec nous par téléphone ou par email.
Quel est le bilan des premiers jours de votre travail au salon ? Quels sont les domaines et les projets qui ont suscité le plus d'intérêt de la part des exposants et des visiteurs africains ?
Les projets dédiés au génie mécanique ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies dans l'agriculture, par exemple les véhicules aériens sans pilote, c'est-à-dire les drones, sont les plus intéressants. De plus, les produits russes de la société Espace, par exemple, fabricant de colliers spécieux pour l'observation des grands animaux, ont suscité un réel intérêt. Cette technologie est utilisée en Russie pour surveiller et étudier les routes de migration des rennes. Il vous permet d'analyser la vie de l'animal et de collecter des informations sur son comportement à différentes périodes de l'année. Les Marocains s'intéressent à l'application de ces technologies dans le domaine de l'élevage bovin en plein air, ainsi que dans le domaine de l'observation des routes de dromadaires. En même temps, les représentants des entreprises africaines sont traditionnellement intéressés par l'achat de produits russes finis, comme céréales, huile, engrais, produits semi-finis. Je voudrais dire que grande attention attire l'exposition de la société Lukoil Lubricants, qui travaille au Maroc déjà quelques années et propose des différents genres d'huiles techniques pour la machinerie agricole.
Trois entreprises russes, Miratorg, Blago et BTI Group participent à ce grand salon africain. Pourquoi ces entreprises en particulier ? En quoi présentent-elles un intérêt pour les Africains ?
Comme j'ai déjà dit, les événements comme SIAM sont une excellente occasion pour les entreprises de rencontrer des clients potentiels et d'obtenir les contacts nécessaires. Par exemple, la société Miratorg, en collaboration avec la représentation commerciale, a organisé une exposition de ses produits. En plus des produits semi-finis prêts, c'est comme un mélange des légumes surgelés, croquettes de poulet, rondelles d'oignons et des éléments pour des animaux, il a présenté aux clients africains un produit complètement russe, pelmeni. Je voudrais noter que les éléments pour des animaux ainsi que certains produits semi-finis de Miratorg sont déjà fournis aux grandes chaînes de distribution du royaume. Aussi, avec le soutien de la représentation, plusieurs rendez-vous d'affaires et négociations entre Mirator et des acheteurs potentiels du Maroc se sont tenus en marge du salon. L'autre entreprise, c'est Blago, a également envoyé son représentant à l'exposition. Avec l'appui de la mission commerciale, ont été organisés des rendez-vous d'affaires pour évoquer les éventuels approvisionnements en tourteaux de tournesol et huile de tournesol, avec un grand succès. Et très intéressant en société, c'est la société BTI Group qui a organisé son propre stand dédié aux nouvelles technologies et aux solutions numériques intégrées dans le domaine de l'agriculture. Cette société est un fabricant unique de son propre logiciel qui est utilisé avec succès dans l'agro-secteur en Russie. À l'heure actuelle, on a des informations sur le grand intérêt des entreprises marocaines pour l'application de ces technologies dans l'agriculture du royaume. Nous espérons que la coopération entre BTI et les sociétés du Maroc sera fructueuse et mutuellement bénéfique. Comme dirais-je, gagnant-gagnant.
La Russie est l'un des plus grands producteurs mondiaux de produits agricoles et d'engrais, mais au cours de l'année écoulée, les sanctions anti-russes ne lui ont tout simplement pas permis de fournir tous les produits qu'elle aurait pu fournir aux marchés mondiaux. En conséquence, les prix mondiaux restent élevés, ce qui a un impact négatif sur la sécurité alimentaire des pays africains. À cet égard, la Russie a fait part de sa volonté de fournir gratuitement une quantité importante d'engrais que l'Occident bloque dans les ports européens. D'après vos conversations avec des hommes d'affaires marocains et africains, diriez-vous qu'ils comprennent l'essence de la situation actuelle? Et qu'en pensent les entreprises africaines?
Les producteurs d'engrais méritent une attention particulière. Bien sûr, les engrais russes sont traditionnellement très populaires sur le continent africain. Et la Russie considère comme un fournisseur numéro un de ce produit. Nous recevons un grand nombre de demandes pour promouvoir ces produits en direction africaine. Et en effet, nous attendons souvent des représentants d'entreprises africaines parler de la situation très difficile du secteur agro-industriel dans leur pays. Nous partageons leurs préoccupations et proposons à adopter une approche globale pour résoudre ces problèmes compliqués. À cet égard, je peux dire que la représentation commerciale étudie opportunités différentes pour développer une coopération avec les entreprises africaines et est toujours prêt à donner les consultations aux sociétés russes qui veulent commencer le travail sur le marché marocain. En marge de l'exposition, le personnel de la mission commerciale a tenu plusieurs réunions avec des représentants de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, des Comores, du Niger, du Togo, du Soudan et de l'Égypte, au cours de laquelle les représentants des pays ont été invités à participer au deuxième forum économique Russie-Afrique, qui se tiendra au Saint-Pétersbourg du 26 au 29 juillet 2003. Nous espérons le développement d'une coopération fructueuse entre la Russie et les États africains. Et nous sommes convaincus que lors des réunions face à face, en marge du sommet, la Russie et l'Afrique, nous pourrons discuter de toutes les questions principales à l'ordre du jour et trouver une issue même aux dispositions les plus difficiles.
C'était Alexei Andreev, représentant commercial russe à Rabat pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur l'accueil qui a été réservé aux produits russes lors du Salon international de l'agriculture du Maroc et fait état des perspectives de développement de la coopération russo-africaine dans le secteur de l'agroalimentaire. Nous sommes bien à Bamako sur les ondes de Maliba FM. Vous écoutez Spoutnik Afrique, l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous souhaite la bienvenue si vous venez de régler votre poste de radio sur 99.5 FM. Le 5 mai est la journée du patrimoine mondial africain. À cette occasion, nous voudrions vous rappeler un fragment de l'entretien que mon collègue Kamal Louadj a déjà eu avec Madame Nakana Diakité Prats, experte malienne en diplomatie culturelle. Ensemble, ils avaient abordé l'épineuse question de la restitution aux Africains du patrimoine culturel et des archives qui ont été pillés par les anciennes puissances coloniales occidentales.
À ce jour, après des décennies d'indépendance, 90% selon certains experts, de ce patrimoine est toujours en dehors de l'Afrique. Pourquoi cette situation? Et que constitue ce patrimoine en tant que mémoire, en tant que symbolique, en tant qu'histoire qui a façonné l'esprit africain durant des siècles, et comment ce manque se manifeste-t-il chez la jeunesse africaine aujourd'hui?
C'était une question qui concernait certes l'Afrique, mais qui concernait le monde dans son ensemble. Que la pratique du pillage, c'est une pratique ancienne et, je dirais, multiséculaire, où tous les continents ont été concernés. L'Amérique a été concernée, l'Afrique a été concernée, l'Asie a été concernée. Donc c'est une pratique ignoble, détestable, mais humaine. Et aujourd'hui, l'actualité, les autres, comment dirais-je, lieux, se sont déjà emparés de cette question et ont déjà avancé sur cette question par rapport à la restitution de leur patrimoine. Aujourd'hui, l'actualité porte sur le continent africain parce que il y a une prise de conscience de la faille et de l'impact désastreux de ça, en premier lieu sur la population. Qu'il y ait une prise de conscience de cela, dans le fond, est une bonne chose. Donc, on ne peut que le saluer, parce que mieux vaut tard que jamais. Donc, pas, comment dirais-je, jeter l'eau du bain avec le bébé. Tant mieux qu'il y ait une prise de conscience. Il faut un début à tout. Maintenant, concrètement, effectivement, c'est très lent et il y a peu de choses qui sont retournées. Quelques lieux ont été concernés. Je parle, par exemple, je sais que quelques des pièces ont été restituées, quelques-unes au Bénin. Le Mali a été, comment dirais-je, concerné. Le Sénégal a été concerné. Disons que c'est un petit peu quelques gouttes d'eau dans l'océan, mais quelques gouttes d'eau valent mieux que rien. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant. La frilosité, c'est-à-dire qu'au-delà des discours et de quelques actes symboliques, la frilosité n'en demeure pas moins. Il est important que l'on sorte de quelques actes, on va dire ça comment, sparadrap, là je suis un peu dure, pour comprendre l'essence, le fond et la priorité que c'est, encore une fois, non seulement pour les Africains, mais pour le monde entier. Nous allons en parler ultérieurement. Pourquoi ces pièces, pour la plupart, doivent, en tout cas pour partie, retrouver leur lieu, je ne dirais pas d'origine, mais de création. Il y a une question de vibration, mais je pense que nous allons développer ça ultérieurement, sur ces questions de rupture de transmission, de intergénérationnelle, sur cette errance mémorielle qui peut exister dans la population, on va dire, mondiale la plus jeune qui soit, l'Africaine est une population les plus jeunes, c'est pour ça qu'on dit que c'est le devenir un petit peu du monde, et c'est l'avenir du monde, si je ne m'abuse. Cette préoccupation, donc, elle est essentielle par rapport à la construction, pas de leur identité, mais de leur être. Et je pense que c'est ce sur quoi nous allons tenter de, modestement en tout cas, d'échanger sur l'essence, la place d'objets qui sont issus de cultures qui mettent l'homme et l'être au centre et non l'objet. Parce qu'à travers ces œuvres, nous n'allons pas parler nécessairement de matériel, d'objet, mais de la part invisible, essentielle, et du savoir que représentent ces pièces, de la description, transcription de ce savoir pour ces jeunes.
Est-ce que vous pouvez juste nous développer succinctement cette idée que la restitution des œuvres d'art aux Africains, notamment l'Afrique subsaharienne, est une affaire qui concerne toute l'humanité, tout le monde, et pas uniquement les Africains eux-mêmes?
Je vous remercie pour cette précision. Nous touchons au cœur, effectivement, de quelle est la place de ce continent dans le monde actuel. C'est un continent quand même qui a conçu des, on va dire, où ont préexisté des civilisations extrêmement complexes, extrêmement, comment dirais-je, riches de savoirs encore inexploités. Dans ces civilisations extrêmement complexes, il y avait la question de l'éducation, la question de l'astronomie, la question de la science. Il y avait énormément de savoirs dans tous les domaines qui existent actuellement et qui peuvent, à ce moment-là, servir de support.
C'était Madame Nakana Diakité-Pratt, experte malienne en diplomatie culturelle. Elle a évoqué l'épineuse question de la restitution aux Africains du patrimoine culturel et des archives qui, pour rappel, avaient été pillées par les anciennes puissances coloniales occidentales. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement aux commandes d'une nouvelle émission, Fidèle au poste. Je vous invite à suivre l'actualité africaine et internationale sur notre site internet. D'ici là, portez-vous bien.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.